Mesdames et messieurs, je vous salue pour cette troisième séance. Je suis très content que vous êtes là. Je dois vous prévenir que le cours d'aujourd'hui risque de devenir intéressant, puisque nous allons parler de contre-exemples. Pendant les deux derniers cours, je vous ai expliqué que l'idée d'une exception européenne en matière de sécularisation était faible. En effet, la théorie de la sécularisation permet d'expliquer aussi bien le niveau de sécularité que le processus de sécularisation. Mais il existe quand même des contre-exemples importants. Des contre-exemples qui sont régulièrement adressés à la théorie orthodoxe de la sécularisation. La question d'aujourd'hui est alors, y a-t-il des contre-exemples importants par rapport à la théorie d'une sécularisation mondiale ? Et invalide-t-il la théorie de la sécularisation en général ou en partie? Pour pouvoir traiter cette question, nous devons être au clair de ce qu'est un contre-exemple. Et un contre-exemple pour moi, j'accepterai un contre-exemple si on peut démontrer qu'un pays ou une région sont caractérisés par une modernisation d'un côté, mais pas de sécularisation de l'autre côté, ou même un retour du religieux. Je définis un retour du religieux comme une croissance de l'importance du religieux sur le niveau individuel, organisationnel et ou sociétal. Pour traiter une question aussi vaste, je dois me contenter de choisir les exemples les plus saillants et j'essaierai de montrer des questions, des données statistiques longitudinales. Les exemples que je vous présenterai sont les États-Unis, le renouveau pentecôtiste avec le cas du Brésil et de la Corée du Sud, le renouveau orthodoxe avec le cas de la Russie et de la Géorgie, et le renouveau islamique avec un focus sur la Turquie. Maintenant, dès qu'on a des contre-exemples, on peut se poser la question, est-ce que la théorie de la sécularisation arriverait peut-être elle-même à expliquer ces contre-exemples? Et la réponse est oui. Il y a trois stratégies pour la théorie de la sécularisation pour expliquer des contre-exemples. Premièrement, on peut dire, en fait, ce n'est pas un contre-exemple. On peut regarder le cas et voir que, de fait, il y a là aussi modernisation et sécularisation, et on va voir un exemple tout à l'heure. Deuxièmement, on peut s'imaginer que si la théorie dit avec plus de modernisation, il y a plus de sécularisation, on pourrait aussi dire à l'inverse que moins de modernisation ou une démodernisation pourrait mener à un retour du religieux. Si vous avez suivi le deuxième cours, vous voyez que ça, c'est comme si on argumente qu'on peut remettre du dentifrice dans le tube. Si vous n'avez pas été au deuxième cours, vous ne comprendrez pas l'allusion, mais ce n'est pas grave. Troisième point, et le plus important, la théorie orthodoxe de la sécularisation peut argumenter qu'il y a d'autres manières d'expliquer un retour du religieux. Ainsi, Roy Wallis et Steve Bruce, deux des principaux théoriciens de la théorie de la sécularisation, écrivent que ces modèles historiques et culturels spécifiques suggèrent un principe heuristique simple, à savoir que la modernisation génère la sécularisation, sauf là où la religion trouve ou conserve du travail à faire autre que de relier les individus au surnaturel. Donc ils disent, c'est possible qu'il y ait un retour du religieux, mais alors le religieux fait autre chose que d'habitude, il a d'autres fonctions. À la suite de Wallis et Bruce, plusieurs auteurs ont essayé d'identifier des causes transitoires d'un possible retour du religieux, même s'il y a modernisation. Et j'ai essayé de mettre ensemble ces différents arguments. J'en ai trouvé quatre vraiment importantes. Premièrement, il y a des auteurs qui argumentent qu'un retour du religieux est possible en cas de trop rapide modernisation et urbanisation. S'il y a trop rapide modernisation et urbanisation, beaucoup de personnes immigrent dans les grandes villes, perdent leur cadre d'interprétation, se trouvent face à de grandes insécurités et inégalités. Certaines personnes deviennent riches rapidement, beaucoup d'autres restent ou deviennent pauvres. Et dans une telle situation, comme dans la période de la révolution industrielle, beaucoup de personnes sont à la recherche de nouveaux liens sociaux, nouvelles techniques de vie, et peuvent être prêtes à se joindre à des groupes religieux leur offrant une réintégration. Donc, première explication. Deuxièmement, un retour est possible en cas de forte crise économique ou politique. Comme dans le premier cas, de telles crises, si elles sont vraiment fortes, peuvent complètement bouleverser les bases d'existence matérielle et de manière d'interprétation des personnes. Elles peuvent générer des inégalités et insécurités extrêmes. À nouveau, les groupes religieux peuvent sécuriser et réintégrer de telles personnes. Troisièmement, un retour est possible si un groupe se voit menacé de l'extérieur ou d'en haut par une élite. La religion est ici une ressource identitaire qui est utilisée par les acteurs menacés pour coordonner le combat contre l'agresseur perçu et pour se redonner une identité positive. Cette stratégie est souvent appelée une défense culturelle. Quatrièmement, et dernier point, un retour est envisageable si un nouvel État est créé ou si l'État se trouve affaibli. Dans un tel cas, l'État peut essayer de se légitimer religieusement et de se lier à des groupes religieux qui ont du pouvoir. Rappelons que dans tous les cas mentionnés, les théoriciens de la sécularisation voudraient expliquer des contre-exemples comme transitoires. Ils vont dire « oui, c'est possible que dans de tels cas, il y a un retour du religieux pendant un certain temps, mais ensuite la modernisation va faire en sorte que la sécularisation continuera quand même ». Il y a un problème avec ces explications, pas des moindres. Ces explications ont le désavantage d'être proches d'une explication ad hoc. Si elle n'est pas utilisée correctement, le danger réside dans le fait de trouver des cas de renouveau religieux, chercher un de ces éléments, par exemple la rapide modernisation, et si on l'aurait trouvé, de déclarer qu'on aurait expliqué le cas. Le problème est qu'on n'aurait pas investigué tous les autres cas également montrant une trop rapide modernisation et où on n'aurait pas trouvé de renouveau religieux. Mais voyons donc, c'était relativement abstrait. Maintenant, vous voudrez probablement voir les exemples. Et voilà donc les exemples. D'abord, les États-Unis. Pendant longtemps, cet exemple a été systématiquement adressé aux tenants de la théorie de la sécularisation. La théorie de la sécularisation ne pouvait pas être une théorie générale, disait-on, puisque les États-Unis étaient l'exemple parfait d'un pays extrêmement modernisé, qui était en même temps extrêmement religieux, et ne montrait aucun signe de sécularisation. Des présidents comme Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush, Barack Obama ou Donald Trump aimaient tous se montrer comme des chrétiens croyants. L'intégrisme chrétien et le pentecôtisme étaient et continuaient d'être extrêmement forts à la fois dans la vie des gens et en tant que force politique aux États-Unis. En somme, disaient les critiques, la théorie de la sécularisation a été catégoriquement contredite par cet exemple. Eh bien, au cours des dernières décennies, la question de l'exceptionnalité états-unienne en matière de religion a été réglée empiriquement. Voilà les données du Pew Research Center, et ils montrent qu'entre 2007 et 2018, le pourcentage de chrétiens affiliés est passé de 78% à 65%, et le pourcentage de non-chrétiens, les personnes sans appartenance religieuse, est passé de 16% en 2007 à 26% en 2018. Donc vous voyez une forte sécularisation, là, aux États-Unis. David Vos et Mark Chaves, dans un article paru dans le American Journal of Sociology, ont démontré en plus que la sécularisation aux États-Unis prend la forme du remplacement de cohorte qu'on a déjà vu la dernière fois. Vous vous rappelez le millefeuille. Donc, exactement la même chose aux États-Unis. Chaque génération, chaque cohorte est un peu moins religieuse que la précédente. Mais maintient relativement à travers la vie la religiosité, la sécularisation est alors une sorte de remplacement de cohorte. Un jeune chercheur, Simon Brower, de la Duke University, a publié un article dans le Journal for the Scientific Study of Religion qui a démontré que les États-Unis semblent se comporter exactement comme le modèle de la transition séculière de Vos qu'on a déjà vu la dernière fois. Vous vous souvenez, il y avait l'idée qu'il y a un modèle général que tous les pays... que tous les pays suivent. Donc ici, vous avez les séculiers en rouge, en bleu les religieux, en vert les flous. Les grands points, c'est les États-Unis. Et vous voyez, ces points sont exactement sur le modèle là. Les États-Unis se comportent comme ils se devraient comporter selon le modèle de Vos. Nous pouvons résumer notre analyse en disant que les États-Unis ne sont pas... Non, ce n'est pas un contre-exemple. C'est peut-être trop peu que j'ai écrit sur ce slide. Mais... Donc, ce ne sont pas un contre-exemple contre la théorie orthodoxe de la sécularisation. Certes, leur religiosité est relativement élevée, mais le processus de la sécularisation est exactement le même aux États-Unis que dans les autres pays occidentaux. Venons au deuxième exemple qui est plus difficile pour la théorie de la sécularisation, le pentecôtisme et charismatisme. Apparu au début du XXe siècle à Los Angeles, le mouvement pentecôtiste met l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit sous différentes formes. Le pentecôtisme consiste en une grande multitude de dénominations et groupes indépendants. On distingue souvent trois étapes ou vagues. La première vague est le pentecôtisme classique, né au début du XXe siècle. Dans la deuxième vague, pendant les années 1960, des dénominations évangéliques et catholiques, ou protestants ou catholiques, s'ouvrent aux croyances et pratiques pentecôtistes. On appelle cette vague le mouvement charismatique. Et dans la troisième vague, commençant dans les années 1980, un grand nombre de groupes non dénominationnels et pentecôtisants émergent. Un accent est mis spécifiquement sur les idées qu'on pourrait devenir riche en éprouvant le Saint-Esprit, la théologie de la prospérité, et qu'on pourrait combattre les forces démoniaques dans la société comme dans une guerre. On parle de « spiritual warfare ». D'où viennent ces idées ? Dans les Actes 2, nous lisons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai mis en gras les choses importantes pour comprendre les pentecôtistes d'aujourd'hui. Dans Marc 17, 18, nous lisons « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et dans Matthieu 19, vous lisez « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Je cite ici les textes bibliques directement parce que les pentecôtistes, étant fondamentalistes, veulent prendre ce texte à la lettre. Selon eux, ces choses se sont réellement passées, comme décrit dans la Bible. Et ce qui est plus, les mêmes phénomènes peuvent se passer en ce moment chez nous. Du coup, nous aussi pouvons être remplis du Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, faire des miracles, comme guérir les malades et devenir riches en croyants. Et si vous allez à un rituel des pentecôtistes, vous allez en effet voir tout ça. Donc vous allez voir des guérisons de malades, vous allez voir le... parler en langue. Je ne sais pas si ça marchera. Je vais voir si j'arrive à... Oui, je n'ai malheureusement pas le son. Je voulais vous montrer une femme qui, ici, parlant langue. Quand quelqu'un parle en langue, c'est un peu comme « rakata, pakatakata, takapakata ». C'est comme ça. La personne qui parle en langue ne comprend pas elle-même ce qu'elle dit. une autre personne pourrait avoir le charisme de savoir interpréter ce langage. Mais ça, c'est pour les pentecôtistes, le parler en langue. Et c'est seulement une personne qui a ce baptême, ce deuxième baptême, qui est vraiment, selon eux, qui a vraiment compris ou intégré le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi aux États-Unis voir la manipulation des serpents venimeux, mais c'est très très minoritaire. La manipulation des serpents venimeux a un désavantage, à savoir que les serpents sont venimeux. Donc c'est très très dangereux et il y a des gens qui sont morts à cause de cette pratique-là. La force du réveil pentecôtiste a été spectaculaire. Dans une étude récente, Gina Zurlow, Todd M. Johnson et Peter F. Crossing estiment que le pentecôtisme a réussi en 100 ans de toucher 644 millions de personnes, ce qui représente 23,4% du christianisme mondial. Donc en rouge, vous voyez le pentecôtisme. Ça, c'est quand même énorme. En 100 ans, un tel nombre de personnes qui sont pentecôtistes ou charismatiques. Si le renouveau pentecôtiste est impressionnant, il a connu son principal succès dans les pays du sud de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, où la théorie de la sécularisation prédit une grande religiosité. Donc c'est surtout dans le Global South que vous voyez le renouveau pentecôtiste. Regardons deux cas. Donc ici, dans le Global South, vous avez surtout, donc là où c'est plus foncé, vous avez plus de chrétiens de type pentecôtiste. Regardons deux cas. Le premier cas, c'est le Brésil. Le Brésil est la situation dans le Brésil a fortement changé entre 1970 et 2010. Vous voyez ici, les catholiques ont fortement perdu. Les protestants ont fortement gagné. Les sans-confessions ont gagné et les autres religions ont gagné un petit peu. Maintenant, si on regarde plus les protestants ici, qui a gagné parmi les protestants, c'est montré ici. Et vous voyez, ce n'est pas les mainline protestants, les luthériens par exemple, ou les réformés, mais c'est les pentecôtistes qui ont gagné. Donc c'est vrai, il y a un fort regain, donc une forte croissance du pentecôtisme au Brésil, mais vous avez aussi une sécularisation. Et c'est les catholiques qui ont surtout perdu. Donc en tout, il y a au fond une sécularisation qui est en cours au Brésil avec un changement interne à l'intérieur du christianisme. Donc je dirais que le Brésil n'est pas un contre-exemple contre la théorie de la sécularisation. Qu'en est-il de la Corée du Sud ? La Corée du Sud est un exemple extrêmement intéressant. Il y a un renouveau du religieux à partir des années 1966. Et vous voyez ici que le nombre, donc 66, et le nombre des protestants monte de manière très très importante. Mais ce qui est frappant, c'est que le nombre de bouddhistes monte encore plus et des autres religions aussi plus. Les catholiques restent relativement stables. Selon le meilleur article sur le sujet écrit par Lee Soo, en Corée du Sud, l'explication est la suivante. Le général Park Chung-hee arrive au pouvoir en 1961 par un coup d'État, modernise la société d'en haut de manière extrêmement rapide et autoritaire. Ceci crée une urbanisation très rapide et en même temps, le général supprime la religion populaire dominante au profit des religions vues comme bénéfiques pour l'État, en particulier le bouddhisme et le protestantisme. En conséquence, de nombreuses personnes se trouvent dans l'insécurité, manquent de schémas cognitifs pour la nouvelle situation, luttent pour la réintégration. Beaucoup traduisent leur ancienne religion populaire en bouddhisme, tandis que d'autres passent au protestantisme, considéré comme particulièrement moderne. Le retour du religieux est donc, selon Lee Soo, principalement à voir comme le résultat d'une action de l'État en train de se créer. Depuis que la Corée du Sud s'est démocratisée, par contre, est devenue plus stable, on remarque des signes de sécularisation évidentes, ayant l'air très similaires de ce qu'on peut voir dans les démocraties de l'Ouest. Donc ici, j'ai donc Why Young South Koreans Are Turning Away from Religion, et tout l'article tourne autour de les jeunes ont d'autres choses à faire, ont leur smartphone, et les églises cherchent de nouvelles manières pour intéresser les jeunes. Donc des choses qui sont très similaires à ce qu'on voit par exemple en France ou en Grande-Bretagne. Même si les cas peuvent être très différents de pays en pays, on peut peut-être généraliser en disant qu'il y a dans ces cas de forte modernisation et urbanisation, des inégalités croissantes et insécurité, des besoins de légitimation parfois des États, et en tout cas pour les individus, une fonction de réintégration. Mon troisième exemple, c'est les orthodoxes. Le renouveau religieux dans les pays orthodoxes post-communistes, tels que l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Serbie et l'Ukraine, s'est amorcé dès l'époque soviétique, dans les années 1970, mais a connu son impulsion principale à partir de 1990. En Russie, par exemple, l'affiliation à l'Église orthodoxe a augmenté de 31% en 1990 à 72% en 2008. Donc, quand même très intéressant. Donc, vous avez cette croissance-là en Russie de personnes qui sont affiliées à l'Église orthodoxe. La croyance en Dieu, par contre, et l'autodescription en tant que religieux ont aussi augmenté, mais de manière beaucoup moins importante. Et la fréquentation du service religieux est pratiquement restée stable. Donc, vous avez ces orthodoxes ne vont pas au service religieux, mais ils se disent, il y a beaucoup plus de personnes qui se disent affiliées. Ces chiffres sont interprétés par les spécialistes comme Detlef Pollack et Gergely Rosta dans leur livre Religion and Modernity, dans le sens d'un retour du religieux identitaire et nationaliste. Selon eux, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 eut l'effet d'une grande crise, aussi bien économique qu'identitaire. Ce manque d'identité, de projet culturel commun, était comblé par l'idée qu'un Russe, c'était être orthodoxe. Et un Russe pouvait être orthodoxe et fier de l'être. Ainsi, l'Église orthodoxe crée de la légitimité pour l'État, et l'État favorise l'Église aussi bien juridiquement que financièrement. Poutine se montre très volontiers ensemble avec le patriarche Kirill, et a même dit en 2007 que les religions traditionnelles étaient pour la sécurité de la Russie aussi importantes que la protection nucléaire. Le même phénomène se voit encore plus clairement quand on regarde la Géorgie. Le renouveau commence déjà lentement dans les années 1970, mais ici vous voyez, il y avait pas mal d'églises en 1920. Ensuite, les communistes essaient de détruire la religion. Mais vous voyez ici comment le nombre d'églises monte. C'est incroyable. Ici, les fréquentations du service religieux des enfants, affiliation, importance de la religion, fréquentation du service religieux. Vous voyez, à la fin, ici, semble retomber ici. Donc peut-être que c'est seulement transitoire. Mais vous voyez, donc, de manière générale, il y a vraiment un regain de religieux pendant un certain temps en Géorgie. Et la Géorgie est l'exemple le plus frappant de tous ces pays. Comme dans le cas russe, nous voyons que le retour, le gros du retour, vous le voyez, le gris peint. C'est en 1990 que le gros du retour se passe. Et qu'est-ce qui se passe en 1990? Eh bien, vous avez le PIB par habitant tombe de manière incroyable. Vous avez ici une crise économique et sociale énorme en Géorgie, quand l'Union soviétique se désintègre. Vous avez à ce moment-là, ça c'est aussi 1990, la confiance en la politique aux partis politiques, système juridique est très très faible. La seule confiance qui monte, c'est la confiance en l'Église. Donc il y a une institution qui marche, c'est l'Église orthodoxe. Elle donne de l'identité orthodoxe. Et ici, vous voyez les finances que l'État donne à l'Église. Donc, à partir d'un certain moment, l'État comprend qu'il peut, il est faible, mais il peut prendre de la légitimité de l'Église orthodoxe, et donc il finance fortement l'Église. Comme dans le cas des Russes, nous voyons que le retour du religieux mène les politiques à chercher le contact avec le patriarche. Donc on voit ici Gamsa Kurdia, tous l'ont fait, Shevardnadze, Saakashvili, Ivanishvili, chaque fois avec le patriarche Ilia II, qui est charismatique et qui donne la légitimité à l'État. Quelles sont les causes du retour orthodoxe en Russie, Géorgie et d'autres pays comme la Roumanie, Serbie ou Monténégro? On pourrait dire que la crise économique et sociétale a mené à une perte des repères idéologiques pour beaucoup de personnes. L'économie a été privatisée et a été mise en contact avec l'économie mondiale très rapidement. Ceci a créé de fortes inégalités, de l'insécurité, de la déception avec les régimes corrompus et avec des attentes de progrès économique. Et les États en manque de légitimation ont alors essayé d'utiliser l'Église orthodoxe pour se légitimer. En s'identifiant à l'orthodoxie, les individus défendent leur culture et leurs valeurs de soi, et l'État gagne en légitimité. Donc, tout se désintègre et on se dit, mais qui sommes-nous encore? Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes orthodoxes. Nous sommes géorgiens et nous pouvons être fiers de l'être. C'est un peu le mécanisme identitaire nationaliste que je vois. Dernier exemple, l'islam. Le renouveau islamique dans des pays à prédominance musulmane tels que l'Afghanistan, l'Algérie, l'Iran, l'Égypte, l'Irak, le Pakistan, la Syrie, la Tunisie ou la Turquie se voit surtout à partir des années 1970. Il n'est pas, contrairement à ce qui est parfois décrit dans les médias, un phénomène de groupes marginaux ou extrémistes, mais un phénomène à grande échelle qui touche l'ensemble de la population de ces pays. Il s'agit d'un phénomène qui a fait augmenter la pratique et la croyance religieuse, la place du religieux dans le public et dans la politique. Le renouveau du islamique est d'une grande complexité et mériterait, comme d'ailleurs tout ce que je montre ici, d'une analyse beaucoup plus en détail. Mais les mécanismes semblent quand même être, les mécanismes les plus importants semblent quand même être clairs. D'abord, on ne comprend pas le renouveau islamique si on ne comprend pas qu'il y a eu avant une forte sécularisation. Le renouveau islamique est un mouvement de réaction aussi bien à l'ère de la colonisation par l'Ouest qu'à un mouvement de modernisation et sécularisation rapide d'en haut, dans la première partie du XXe siècle. Par exemple, en Égypte, en Turquie ou en Iran, les régimes cherchaient à moderniser et séculariser la société d'en haut pour atteindre un niveau de productivité et modernité similaire aux pays de l'Ouest. Cette modernisation et cette sécularisation étaient entre autres symbolisées par de nouveaux produits, par l'éducation des femmes, mais surtout aussi par l'enlèvement du voile. Ça, c'était le grand symbole pour la modernité, la modernisation. D'ailleurs aussi, l'enlèvement du fait de l'homme. Donc en Turquie, vous avez une loi en 1925 qui interdisait le fait. Donc ce n'est pas seulement la femme, mais aussi aussi l'homme. Cette modernisation et sécularisation d'en haut créa tout de suite des mouvements de réaction et de résistance comme les Frères musulmans qui étaient fondés en 1928. Mais ces mouvements auraient un succès fulgurant seulement 50 ans plus tard. À partir des années 1970, nous observons une réaction de renouveau islamique importante dans beaucoup de pays à majorité musulmane. Pour ne donner que quelques éléments, en Égypte, les Frères musulmans deviennent de plus en plus forts et le mouvement du hijab prend son essor d'abord dans les universités, ensuite dans la société en général. En 1973, l'Arabie saoudite commence de manière massive à diffuser un islam wahhabite. En 1978, Ziaul Haq introduit un système juridique islamique au Pakistan. En 1983, un système juridique islamique est introduit au Soudan. 1979 a lieu la révolution iranienne. À partir des années 1994, les talibans émergent au Kandahar en Afghanistan. Moi, vous avez vu, je cherche toujours les données statistiques pour montrer que ces choses existent. Il n'existe pas beaucoup de données statistiques pour montrer ce... Il est clair qu'il existe, donc il n'y a aucun doute, mais il n'existe pas tellement de données statistiques. J'ai trouvé ceci dans un texte de Carvalho qui cite Mutlu, donc c'est dans l'université de Ankara en 1978 et 1991. C'est des étudiants qui, et on voit que ils croient, les pourcentages de croyants montent clairement entre 1978 et 1990. Donc, God really exists, there's a day of resurrection, I believe there's a heaven and hell. Donc, on voit ici la croissance. Une autre manière de démontrer empiriquement le retour du religieux consiste en textes et photos des années 1970. Et aujourd'hui, qui montre que le hijab est porté beaucoup plus souvent aujourd'hui. Carvalho écrit « Abu Lugod writes about the Cairo of 1969. One rarely sees jalabiya, traditional robes. Almost no women are veiled. » Ça, c'était alors. « Yet by 2000, Bayar claims that veiled women in Cairo constitute a staggering majority of over 80%. » C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans des photos, mais aussi quand des descriptions le disent. Les causes générales de ce retour du religieux islamique peuvent être résumées comme suit. Nous trouvons des modernisations d'en haut très rapides qui créent des inégalités et incertitudes croissantes. En même temps, les attentes des gens sont déçues. Elles sont déçues par les régimes vus comme corrompus et s'étant vendues à l'Occident. Déçus concernant leurs attentes de progrès économique. Donc, une fois après l'autre, on voit que les personnes croyaient qu'il y aurait bientôt ils auraient de la richesse, de plus en plus de personnes sont éduquées, mais ça ne vient pas. Donc, il y a de la déception. Et on se sent humilié par les guerres perdues contre Israël et par l'existence d'Israël tout court. Dans cette situation-là, surtout les classes moyennes, déstabilisées, et nouvelles classes avec études universitaires qui voient leur aspiration bloquée, trouvent dans l'islam une interprétation de leur situation et de nouveaux buts à rechercher. Il s'agit donc d'une réintégration, mais aussi d'une défense culturelle et de la valeur de soi. Ils veulent nous changer, mais nous sommes quand même quelqu'un. Nous ne sommes pas personne, nous sommes des musulmans, nous pouvons en être fiers. Donc, défense culturelle et de la valeur de soi. En même temps, il s'agit d'une manière, pour certains États au moins, de se légitimer. Chose intéressante, dernièrement, vous avez peut-être vu ça, des données du Arab Barometer, publiées dans le Economist, ont montré que 6 pays pourraient légèrement se séculariser. Donc, vous avez l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie, l'Irak et la Libye. Trust in Islamist parties, donc la confiance dans les partis islamistes, ceux qui disent qu'ils ne sont pas religieux, confiance aux leaders religieux, et les musulmans qui disent qu'ils vont à la mosquée au moins quelques fois, et partout vous voyez une certaine sécularisation. Donc ici il y a moins, donc là c'est en rouge, c'est 2018-19, donc il y a moins de trust ici. Et le nombre de personnes qui disent qu'ils ne sont pas religieux a augmenté. Donc, on voit là une certaine sécularisation. Maintenant, il est probablement trop tôt pour dire si ça, c'est un indice d'une sécularisation plus poussée. Mais le constat est intéressant parce qu'il y a eu des auteurs qui ont dit que les musulmans, de manière générale, étaient une exception générale. Donc, la sécularisation ne pouvait pas exister dans le monde musulman. En conclusion, nous avons vu qu'on trouve beaucoup d'exemples de croissance religieuse dans le monde. Donc la théorie de la sécularisation a des problèmes, en tout cas. Il y a des contre-exemples, où on a des retours du religieux. Et il y en aurait d'autres dont je n'ai pas parlé. Mais on a aussi vu que ces contre-exemples pourraient s'expliquer par les explications données par la théorie orthodoxe de la sécularisation. Théorie orthodoxe, la sécularisation pourrait dire, c'est vrai que ça existe, mais c'est transitoire. On a vu que pour moi, en tout cas, ça marche assez bien de dire que c'est toujours en lien avec une trop rapide modernisation, souvent d'en haut. Les gens ne sont pas prêts pour cette modernisation. Avec crise sociétale forte et la création ou des besoins d'États qui ont besoin de légitimité. Donc les défenseurs de la théorie orthodoxe de sécularisation pourraient dire oui, ça existe, mais c'est transitoire. Mais dès qu'il y aura une démocratie stable, avec un État démocratique qui fonctionne, vous allez voir que la sécularisation va prendre son chemin. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il faut quand même dire qu'il y a encore d'autres preuves pour une sécularisation et transition séculière mondiale, mais ça c'est pour la prochaine fois. Donc avec ce suspense, je vous laisse pour aujourd'hui et je suis très intéressé si vous avez des questions. Merci.